Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand plaisir de recevoir devant ses micros les concepteurs, les créateurs, les organisateurs du concours scolaire Philippe Sangor. C'est une belle aventure qui a commencé en 2006. Colombe Anouilh-Darcourt, fille du grand dramaturge, est avec nous. Colombe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la mère du concours scolaire Philippe Sangor. Racontez-nous, ce concours vous est venu à l'idée, pourquoi, comment, racontez-nous les circonstances de création, de naissance de cette belle aventure.
Écoutez, c'était effectivement une très belle aventure et c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié qui a commencé en Suisse. Quand j'ai passé mon baccalauréat à l'Institut du Rosé en Suisse, j'y ai rencontré le dernier fils du président Sangor, Philippe Sangor. Une amitié est née et nous avions décidé qu'à la fête de l'école, nous allions présenter nos deux pères, nos deux génies de père littéraires. Ça ne s'est pas fait à la fête de l'école. Et c'est Madame Sangor, Colette Sangor, qui s'est retrouvée à déjeuner avec mon père à la fête donc de l'école. Et par la suite, Madame Sangor a présenté le président Sangor à mon père, qui avait tous les deux une admiration mutuelle. Je suis allée au Sénégal rendre visite à Philippe Sangor. Là, nous avons fait un très beau voyage avec le président et sa femme. Nous avons été dans plusieurs régions du Sénégal. Donc, j'ai eu la chance de partager des moments intimes, on va dire, avec le
C'était
président.
C'était la découverte d'un nouveau continent pour vous, Colombe ?
Tout à fait. Tout à fait.
Et vos impressions ?
Merveilleuses.
De voyage, envoûtée,
envoûtée, bien sûr. Ce qui était formidable, donc, j'ai partagé plusieurs moments intimes avec les Sangor. Là, le président m'a dit une phrase qui a été déterminante, mais pas sur le moment. Il m'a dit plusieurs fois, « Colombe, l'avenir est au métissage ». Et je dois vous dire qu'à 19 ans, je n'ai pas très, très bien compris ce que ça voulait dire, la portée de cette
réflexion.
Et c'est seulement longtemps après que cette phrase a pris toute son ampleur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en 1981, l'année de mon mariage? Philippe s'est tué en voiture accidentellement, bêtement, avec sa fiancée. Je suis toujours restée en contact avec les Sangor, avec la famille Sangor, toujours. Et encore aujourd'hui, avec ceux qui restent. Après ça, la vie est passée, je me suis mariée, donc, les enfants. Hein. Et puis, j'ai fait des études d'architecture. Et puis, on m'a proposé d'être présidente d'un prix littéraire pour enfants. Et le prix Saint-Exupéry. Et de là, j'ai rencontré donc Agnès, qui est à mes côtés.
Agnès Hollard.
Et nous avons commencé à parler francophonie, à travailler sur ce prix. Tu m'as énormément aidée.
Donc, une volonté de votre part, Colombe Anouilh, de créer, de faire quelque chose pour la francophonie et pour le jeune public.
Exactement. Pour la francophonie, j'ai demandé d'ailleurs à Madame Sangor de patronner ce prix Saint-Exupéry pour la francophonie, ce qu'elle a fait, bien sûr.
Cette notion de métissage venue de la propre réflexion de Léopold Sédar Sangor, vous en avez déduit métissage des cultures.
Métissage des cultures, métissage de tout. C'est-à-dire que si on veut arriver à une paix, je pense qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, avec sa culture, avec sa différence. Et ça, ça a été devenu une évidence.
La ceinture de main fraternelle dont nous parlaient Sangor et Césaire. Et vous avez essayé donc de concevoir quelque chose qui mettrait comme ça des énergies en marche et en route vers la fraternité, vers la compréhension mutuelle les uns des autres, de cultures différentes.
En faisant justement quelque chose pour la francophonie. Le président Diouf est venu à toutes les remises de ce prix Saint-Exupéry, a remis le prix francophonie à plusieurs personnes, Lamia El-Sahad. Déjà, le président Diouf s'intéressait à ce prix francophone. Nous avons quitté le prix Saint-Exupéry et nous avons décidé, vraiment ensemble avec Agnès et d'autres personnes, parce que c'est vraiment un
travail collectif.
Ouais, complètement, complètement. Isabelle Barnier aussi, Alix de Vienne.
Agnès Hollard est à vos côtés. Agnès, vous êtes conteuse. Est-ce un métier en soi, conteuse, aujourd'hui ?
Oui, c'est un métier. Ça peut prendre tous les aspects qu'on veut donner. On peut être conteur du dimanche, du lundi, du mardi. Et C'est pas le plus important, le côté professionnel. Ça rejoint d'ailleurs peut-être ce concours. Moi, je crois que raconter des histoires, c'est quelque chose de très, très important. Ça n'est pas quelque chose qui est simplement une distraction. Je crois que c'est vraiment fondateur pour beaucoup de choses. Et donc, je le fais sérieusement et souvent, mais je le fais aussi en m'amusant.
Raconter des histoires, c'est parler à notre imaginaire, l'aider à se former, à se créer, à se mettre en route. C'est aussi parler et ouvrir un champ universel.
Tout à fait. Les contes sont universels. On retrouve des contes semblables, voisins, cousins, dans le monde entier, à des époques tout à fait différentes, et c'est saisissant. À travers le concours, on a cette impression aussi, vous disiez ceinture de main, je ne connaissais pas cette expression, je trouve ça vraiment très joli, et je crois que ça s'applique tout à fait au concours. Au même moment, dans un certain nombre de pays, des enfants font le même travail qui est d'écrire une histoire, de poursuivre le même début d'histoire. Et c'est à nouveau une certaine universalité.
Nous revenons à la conception même de ce concours. Quelles sont les bases toutes simples du concours? Que proposez-vous?
Le noyau de ces femmes passionnées s'est réuni autour de notre amour pour la langue française. Je crois que c'est vraiment la base. Et nous avons réfléchi à une manière efficace, utile de travailler dans ce domaine. Et nous nous sommes aperçus que dans les différents dispositifs qui étaient en place, on ne s'adressait pas souvent aux plus jeunes enfants, aux enfants du primaire. Et nous avons pensé que ça méritait toute notre attention. Nous avons créé un concours très simple. Un auteur commence une histoire et les enfants la poursuivent, ce qui fera un conte. Comme le début d'histoire sera le même pour chaque enfant dans chaque pays, on est tous au travail, on fait tous le même travail et ça va donner autant d'histoires différentes. Les parrains successifs du concours ont été pour commencer Éric Orsenna qui nous a donné un très joli début d'histoire, l'année d'après Fatou Diom, l'année suivante Amine Malouf et l'année prochaine Dany Laferrière qui vient de recevoir le prix Médicis. On est vraiment très gâtés. Les enfants travaillent dans tous les pays de la même manière avec leurs professeurs dans le cadre scolaire. Donc nous travaillons aussi d'une certaine manière pour les professeurs et avec eux.
Le professeur s'implique comment dans l'aventure du concours?
Nous souhaitions donner aux professeurs un outil de travail bien construit, amusant, efficace. Et les professeurs font le choix, c'est un choix libre, de participer au concours. Et s'ils le font, ils se relient à la chaîne de tous ceux qui le font déjà. C'est un travail qui se fait avec toute la classe ou bien par petits groupes, il y a une certaine liberté. D'année en année, on a un nombre de participations de plus en plus importantes. On a commencé avec 4 pays la première année, 8 pays l'année d'après, 12 l'année dernière. Dans chaque pays, le nombre de classes participantes est de plus en plus important. Toute cette énergie, cette machine qui se met en place devient de plus en plus motivante, de plus en plus dynamique. Et maintenant, nous avons même conçu un petit livret pédagogique pour accompagner ce travail.
Cette belle histoire qui est née en Afrique, vous parliez de 8 pays, c'est toujours 8 pays du continent africain.
Non, nous ne sommes pas exclusivement présents en Afrique. Nous sommes présents aussi en Europe.
C'est une francophonie qui intéresse tous les pays du monde.
Tous les pays du monde, absolument. On a commencé avec le Canada cette année également.
À chaud comme ça, les réactions des personnes qui sont contactées pour justement s'investir dans ce concours à leur tour. Quelles sont les réactions que l'on rencontre par rapport à ce concours?
Écoutez, si on parle des personnes chargées de l'éducation dans les ambassades, parce que c'est vers eux que le concours passe par leurs mains, leur première réaction, c'est « non, pas un concours de plus, s'il vous plaît ». Ça, c'est la première réaction. Mais tout notre travail est de montrer que ça n'est pas un concours de plus, que c'est un concours important et on a une réponse formidable. On dépend entièrement de leur enthousiasme. La réponse est pour certains, plus qu'une réponse, c'est une implication très, très forte.
Donc la communication du concours passe, et sa propagation et son développement passe par les ambassades, voilà. Par les services des ambassades.
Oui, absolument. Petit à petit, plus le concours sera connu, plus, je pense, le bouche à oreille aussi fera son effet. Et dans certains pays comme le Sénégal, qui a été le premier, bien entendu, concerné, mais aussi la Tunisie, si je peux prendre cet exemple, de plus en plus, le concours est presque autonome dans ces pays, tellement il est important, les relais sont très rodés sur place. Et c'est un concours qui n'a plus tellement besoin de nous. de moins en moins besoin de nous. Par contre, dès qu'on démarre un nouveau pays, là, il faut donner son esprit parce que c'est un travail, bien sûr, et c'est aussi un jeu, c'est aussi un plaisir. On veut partager notre goût pour la langue, on veut partager le goût pour les histoires. Et moi, j'ai une image. Nous sommes allés l'année dernière en Roumanie et en Tunisie avec le concours dans les classes pour démarrer les choses. Et j'ai une image de Colombe devant la carte du monde et qui montrait aux enfants en pointant les pays qui participaient et on leur disait, vous voyez, il est quelle heure? Il est 11h, alors à cette heure-ci, il y a des enfants qui travaillent à la même chose que nous dans tel pays. Et c'est vraiment quelque chose qui a une valeur en elle-même. Voilà, donc il y a une vraie synergie, je pense que c'est ludique. Et puis alors, il y a une gratification quand même extraordinaire, c'est que les gagnants du concours ont la joie et la fierté d'être publiés. Nos publications sont simples. Les enfants sont publiés et chaque pays a une histoire publiée, donc il y a le même commencement mais une suite différente. Et pour nous, ce qui est important, c'est que ça sera un support pour apprendre la langue que des enfants auront créée pour d'autres enfants. Donc là, il y a quelque chose de sympathique et pour nous de très important, qui est cette mise en commun de l'imaginaire des uns et des autres à partir d'une même base. Et dans ce jeu, dans cette fertilité des enfants, on crée un outil de travail qui est, je pense, le moins ennuyeux possible.
C'est à la conteuse que vous êtes, Agnès Hollard, que je voudrais adresser cette question. Par rapport à votre imaginaire d'adulte, qui est passé par un imaginaire d'enfant, évidemment, comme tout un chacun, que pourriez-vous nous dire par rapport à la façon de conter, de raconter à d'autres, hein, puisque c'est dans ce cadre-là que le concours se situe, raconter, transmettre à d'autres, et toujours par le véhicule de la langue française, quelle façon de conter ont les enfants ?
Quand ils sont dans le cadre scolaire, la première réaction des enfants, c'est qu'ils veulent bien faire et faire plaisir au professeur. Donc souvent, le premier jet est très scolaire et finalement, ils n'osent pas s'éloigner du bord. Ils ont très peur de s'éloigner du bord. Et c'est pour ça que notre livret pédagogique, en fait, c'est surtout un livret pour les enfants, c'est pour leur dire « tout est permis ». Et pour le souffler à l'oreille des professeurs éventuellement, tout est permis, lâchez-vous, tout est possible. Parce qu'ils ont souvent un petit peu peur. En fait, on essaye de créer une bulle qui ne soit pas trop scolaire, même si les attentes que l'on en a sont un petit peu scolaires. Donc les enfants sont souvent assez conformistes au départ, parce qu'encadrés. Et il faut un vrai travail des professeurs pour qu'ils se libèrent de ça. Mais quand ils sont libérés, c'est absolument merveilleux. Et ce qui est fabuleux pour nous, il y a vraiment d'ailleurs à étudier les choses, on part tous du même début. Et partant du même début, on se rend compte de l'aspect culturel de nos imaginaires. Parce que quand on était en Tunisie, l'année où Amin Maalouf a commencé l'histoire, il y avait l'histoire de deux villages de chaque côté d'un fleuve qui étaient en guerre depuis toujours et d'ailleurs depuis tellement longtemps qu'ils ne savaient plus très bien pourquoi. C'est comme ça qu'ils le disaient. Et je me souviens très bien en Roumanie, dans une classe vraiment du nord de la Roumanie, une maîtresse absolument formidable qui s'appelait Maria, qui expliquait, mais c'est comme nous, vous voyez bien de l'autre côté, là, bon, bah, y a tel village, je ne peux pas vous dire le nom malheureusement, eh bien, c'est un peu comme nous, il y a le fleuve, alors imaginez-vous que c'est ça. Et alors on plante le décor, chacun le plante chez lui, avec sa culture, mais ça donne des histoires qui partent dans tous les sens, et pour nous c'est un régal, j'espère aussi pour ceux qui ont nos petits livrets dans les mains.
Agnès Hollard, par rapport à ce concours, qui dit concours dit que l'on va gagner quelque chose, qu'il y a une sélection. Selon quels critères ces textes vont-ils être choisis et qu'est-ce qu'on gagne à ce concours ?
Il y a une sélection, comme maintenant les classes sont extrêmement nombreuses. Si je prends la Tunisie par exemple, 80 classes dès la première année ont participé, etc. Donc maintenant, dans chaque pays, il y a un jury national qui fait une présélection. Dans ce jury, il y a des gens de l'enseignement, il y a un public mélangé. Ils font une présélection et ils envoient à Paris 3 histoires présélectionnées. Il y a un jury parisien, dont un jury d'enfants, qui va choisir parmi ces 3 histoires celle qui sera publiée, donc qui va gagner. Donc ça, c'est la grande récompense, c'est d'être publié. Attention, et on en parlera tout à l'heure, je pense, ces histoires sont illustrées aussi. Donc, la plume est félicitée, mais aussi le dessin. Pour nous, c'est très, très important. Le premier cadeau, c'est d'être publié.
À vos côtés, Agnès Hollard, Piazzanartu. Piazzanartu, vous Bonjour. Êtes graphiste de formation, de profession, et vous êtes la directrice artistique de ce projet concours scolaire Philippe Sangor.
Je vous disais tout à l'heure que ce concours, c'était une chaîne d'amitié. Et Piazzanartu est une amie de classe Nous avions 10 ans.
C'est une histoire de classe, ce concours. Hein.
C'est une histoire de classe, oui, absolument. Donc, Pia, on s'est connus à l'école alsacienne, nous avions 10 ans. On s'est retrouvés quelques années plus tard et j'ai parlé à Pia du concours, de cette envie de créer un concours, voilà, l'élaboration. Et Pia, tout de suite partante, de faire la direction artistique, c'est-à-dire de mettre en image les illustrations du concours.
Ce concours étudie, sélectionne, communique, récompense des histoires, mais ces histoires sont aussi accompagnées d'illustrations et c'est donc là l'intervention de Pia Zanartu. Expliquez-nous alors comment ces fascicules sont nés. Donc il y a l'histoire d'un côté et des illustrations qui sont faites également par les enfants.
Ces livrets existent parce qu'effectivement, dès le début, il y a eu le cadeau d'un début de conte par un écrivain, le cadeau de la continuation du conte par les enfants des différentes écoles et des différents pays. Et en même temps, ils ont illustré à leur façon leurs histoires. C'est-à-dire que certains ont utilisé exclusivement des crayons de couleur parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose, pas d'autre moyen que les crayons de couleur. D'autres ont utilisé des perles avec des graines de maïs, du coton, du papier d'aluminium, des coquillages, des graines différentes. Et ça, c'est ça qui est merveilleux, c'est une richesse qui, pour nous, est une grande joie. Parce que quand on reçoit ces documents, disons, on connaît le début du texte, on a déjà la première surprise de la continuation, mais là, il y a la magie de tout ce qui est visuel. Et c'est un bonheur extraordinaire, parce que l'imagination part dans tous les sens.
Ce sont les mêmes enfants qui écrivent l'histoire, qui se chargent aussi de l'illustrer. C'est un double travail ou alors c'est une histoire qui peut être racontée par l'un et illustrée par un autre?
Ça peut être ça aussi. Certains enfants revendiquent le droit de pouvoir faire un dessin plutôt qu'un autre. Parfois, on a très peu de dessins et c'est une grande alchimie pour réussir à faire un livret entier à partir de deux dessins. On les découpe, on les démultiplie, on les met à l'envers. Mais parfois, on en a tellement qu'on ne sait même plus lesquels mettre. Ça fait aussi partie du cadeau.
En tant que graphiste, ces dessins nous parlent à nous adultes, à notre monde des adultes. Un dessin, ce n'est pas innocent. Un dessin, c'est l'expression de tout un jeune vécu, mais un vécu lourd de signification pour nous les adultes qui sont chargés de leur transmettre l'amour, de leur transmettre la connaissance ou le peu de connaissances que nous avons acquis. Ces dessins sont porteurs de tout ça, d'une culture, d'un passé.
Effectivement, certains pays ont des vies politiques compliquées et on le ressent parfois à travers les dessins. Et c'est un peu douloureux de voir ça sur des enfants si jeunes.
Surtout que lorsque le phénomène est visible, décryptable sur un dessin, fait traumatisant, c'est de le voir réapparaître aussi sur le dessin du voisin.
D'une
et
façon
de voir
tout à fait
toute
normale.
Une classe parler un peu, aller dans le même sens au niveau de l'imagination.
C'est ça, ce qui est douloureux, c'est de voir que c'est normal, ça fait partie de leur vie, alors que nous, on voit ça dans des bandes dessinées, dans des films, et eux, c'est leur quotidien.
C'est une façon aussi de raconter son histoire et de s'en décharger plus ou moins.
Bien sûr, mais on se rend compte que chaque pays est différent, que chaque enfant est différent. Quand on a des histoires qui sont belles, qui se tiennent bien et qui sont pleines d'imaginaire, on se dit ouf. Parfois, on sent que les professeurs canalisent plus leurs désirs sur les enfants.
Et ça, vous le recevez, vous, en bout de chaîne, à la lecture ou en regardant ces dessins?
Absolument. Il y a eu une année où il y a eu une histoire. Tous les dessins étaient absolument identiques au niveau de la construction. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, un oiseau avec un bateau. Alors l'oiseau était à gauche, le bateau était en bas à droite, d'une certaine taille. L'oiseau avait les ailes déployées et tous étaient sur le même schéma. Donc probablement, la maîtresse a dû faire un croquis au tableau et les enfants l'ont reproduit avec leur imaginaire et leur personnalité, mais il y avait quand même visiblement un schéma au départ.
C'est un bel indicateur, ce type de concours.
Oui.
De la conformation que nous pouvons entraîner sur l'imaginaire des jeunes enfants.
Du risque de la conformation.
Et des schémas standards, voilà, par rapport à la transmission de la culture.
Et c'est là qu'on se dit que, mon Dieu, c'est pas facile de communiquer avec des enfants et les laisser le plus vierge possible dans leur imaginaire et dans leur personnalité. Une année, nous avions une histoire d'un chevalier arlequin. Alors, chevalier arlequin, quand on s'occupe des oiseaux, on sait que c'est un oiseau. Mais dans le continent africain, un chevalier arlequin n'est pas forcément un oiseau, surtout si le professeur ne le spécifie pas. Donc, il y a eu des dessins absolument touchants et merveilleux de chevaliers, Un chevalier, c'est quelqu'un qui est assis sur un cheval. Un cheval, ça a quatre pattes. Arlequin, cheval bariolé. Et comme l'histoire traitait d'une mouette, eh bien, ce cheval bariolé avait des ailes sans être Pégase. Donc c'était un cheval ou un oiseau avec quatre pattes de cheval.
Et oui, vous auriez posé cette question aussi dans les primaires en France. Un chevalier arlequin, c'est quand même une colle.
Cette poésie, ce cadeau de poésie nous a été offert par Eric Orsenna.
Par Eric Orsenna, qui est donc le parrain. Si vous pouviez nous dire quelques mots sur Eric Orsenna, Colombanouille, pourquoi est-il accepté? Comment l'avez-vous convaincu? Se souvient-il de son enfance? Est-il très sensible à la dimension de l'enfance, Eric Orsenna?
Eric s'occupe des enfants, fait un atelier avec des enfants, a toujours aimé les enfants. Et on a rencontré Eric Orsenna la première fois au Prix Saint-Exupéry. Et c'est un grand francophone, ami du président Diouf aussi, et de la francophonie. Il a continué, et le premier qui nous a fait en 2006 le début de conte, c'est lui. Et il est donc le parrain du concours.
Vous vous souvenez de l'histoire qu'il avait commencée?
Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on vous la lise? Il était une fois sur le pont d'un petit bateau breton, une mouette. Octobre avançait, les jours raccourcissaient, le froid s'installait. Et la mouette regardait là-bas, sur le rivage, le dernier groupe d'oiseaux migrateurs qui se préparait à leur grand voyage annuel vers le sud. Ils étaient si beaux, gris pâles avec leurs pattes rouges. Les mouettes ont des yeux perçants, mais ne sont pas très fortes en vocabulaire. Elle ignorait donc qu'il s'agissait de chevaliers arlequins. Elle les regardait, elle les enviait. Les mouettes tournent et retournent dans le ciel. Rien de bien excitant, rien de comparable avec un vrai voyage. La mouette était timide, la mouette n'osait pas. Mais les timides ont des audaces formidables. Soudain, elle s'envola, s'approcha. « Dites-moi, les chevaliers, vous m'emmenez ?»
Et voilà, ensuite, les enfants devaient continuer cette histoire.
À l'occasion de l'année Sangor, lors de la remise des prix, notre parrain Eric Orsenna avait dit d'ailleurs, à propos de ce commencement, qu'après tout, pour un écrivain, tout roman n'était qu'un commencement, et que tout roman était à compléter par soi-même, par le lecteur, et que ce concours, finalement, à la fois lui était très pratique, car paresseux comme il se disait, mais on n'en croit pas un mot, ça l'arrangeait très bien de n'avoir à écrire que quelques lignes. Mais après tout, pour un écrivain, de voir toutes les suites possibles, c'était comme s'il pouvait lire dans l'esprit de chacun de ses lecteurs les suites de l'un de ses romans.
Après cette pause musicale, nous avons le plaisir d'accueillir devant les micros de Canal Académie, dans ce cercle sympathique qui parle aujourd'hui du concours scolaire Philippe Sangor qui a vu le jour en 2006, Madame Nicole Ferrand. Nicole Ferrand, bonjour. Vous êtes donc cofondatrice de ce concours scolaire Philippe Sangor. Votre époux est sénateur des Français à l'étranger, donc la francophonie, c'est un terrain que vous connaissez.
Absolument, oui. Quand j'ai l'occasion d'accompagner mon mari à l'étranger, alors lui s'occupe plus spécialement, je dirais, des établissements français, des lycées français, des écoles françaises. Et là, mon admiration va directement à ces écoles francophones qui, je dirais, sont des purs produits du pays. En Tunisie, par exemple, ce sont des parents, ce sont des gens qui ont voulu faire une école où l'on parle français, où l'on apprend le français, et où, je dirais, ni le gouvernement français, ni l'éducation nationale, personne ne leur a donné un coup de main.
Donc, oui, ce sont des écoles privées,
des écoles privées, complètement.
Hein, et basées sur la motivation, voilà, comme vous le disiez, francophones convaincus.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est toujours très émouvant. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est que ces écoles ayant pris un élan, tout d'un coup, viennent frapper à la porte en disant, ben oui, maintenant, on est grand, etc. On sait faire un petit peu. Et c'est là où mon mari, je dirais, rentre dans le jeu pour les faire homologuer par l'éducation l'éducation nationale pour que les diplômes qu'ils délivrent soient reconnus.
Est-ce que le concours dont nous parlons aujourd'hui s'adresse exclusivement à ces écoles ?
Tout à fait, parce que dans les écoles françaises à l'étranger, imaginez le lycée de Londres ou le lycée d'Athènes ou le lycée de Mexico où il y a 2500 élèves ou plus, certains, etc. Ils craquent toujours d'ailleurs, ils sont toujours trop petits. On a prévu au départ des choses qui deviennent vite trop petites. Oui, ce sont des établissements où vous n'avez pas que des enfants du pays. Vous avez aussi bien des Norvégiens, des Français, des Italiens. Toute la francophonie se retrouve là. Et le but de ce concours merveilleux de Colombes, si je peux l'appeler ainsi, le concours de Colombes, c'est d'aider justement des enfants qui ne sont pas dans ce système. Parce que récompenser un petit Français qui serait dans cette classe de CM2, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, il faut vraiment s'intéresser aux écoles locales. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ce concours encore plus merveilleux.
Vous êtes cofondatrice de ce concours. Comment y intervenez-vous ? Quelles sont vos responsabilités en quelque sorte ?
J'ai rencontré Colombes d'ailleurs ici dans vos murs au cours d'une cérémonie de remise de prix. Et nous avons parlé, nous avons sympathisé et son idée tout de suite, je l'ai trouvée merveilleuse. Je lui ai dit, mais oui, il faut le faire et vite, il faut que ça démarre, l'année sans gore, c'est demain. Donc il faut absolument se motiver parce qu'on est parti de rien du tout. Donc il a fallu se structurer, etc., se réunir et voilà comment les choses sont parties.
Finalement, c'est une belle histoire entre vous et Colombes qui est née dans ces murs même de l'Institut. Et comme le premier parrain s'appelle Éric Orsenna,
on reste en famille. Nous sommes bénis des dieux, bien sûr.
Très bien. Comment vous parle la francophonie aujourd'hui en 2009 ?
Pour moi, ce n'est pas quelque chose en régression. C'est quelque chose où on a énormément à faire et où on a énormément de demandes. Et c'est pour ça que ces lycées craquent, comme je vous l'ai dit. Imaginez par exemple à Brasilia, lorsqu'on a construit Brasilia, on avait prévu une école pour 200 élèves et là, ils sont 800. On ne sait plus où les mettre. Donc, comme ce lycée a été construit par Le Corbusier, il n'est pas question de planter un clou ni de fermer un préau. Donc, ils vont déménager, il faut trouver un terrain, etc., etc. Donc, pour moi, la francophonie, et surtout quand on la démarre très jeune, en pouvant accueillir des enfants dès la maternelle et des enfants du pays. Voilà. Et pour moi, je pense que plus on fera d'efforts partout, tous les niveaux, les écoles privées, les écoles institutionnelles françaises, etc., plus la francophonie a d'avenir. Le hasard a voulu, lorsque j'accompagnais mon mari à Cuba, j'arrive une fois avec lui à l'Alliance française et on nous dit surtout pas de bruit. Là, il y a un concours français qui est en train de se faire. Et effectivement, c'était un autre concours francophone qui était en train de travailler. Donc, vous voyez, à Cuba, il y a la maison de Victor Hugo. Il y a des choses comme ça. C'est comme le petit poussé. On met des petits cailloux partout. Voilà, et j'y crois beaucoup.
Ce que je trouve de très beau dans ce concours, c'est qu'il ouvre la porte des écoles, finalement. Tout en restant dans cette maison mère qui est l'école, qui est là, qui est la passation. Il y a les parents, il y a la cellule familiale. Ensuite, l'entrée dans la société, c'est de faire son entrée à l'école, d'y recevoir toutes les connaissances possibles pour devenir un homme, une femme plus tard, avec les connaissances contemporaines. Mais ce qui est très beau, c'est que ce concours ouvre la porte à l'imaginaire, à un imaginaire qui appartient individuellement à chacun d'entre nous et à nous d'en faire ce que l'on veut, mais avec comme véhicule cette belle langue française.
Oui, et c'est là où je dirais, bon, il y a deux facteurs importants. Il y a, je dirais, le talent de l'écrivain qui démarre l'histoire, qui donne ce début, cet élan. Vous voyez, quand Éric Orsenna, quand j'ai lu le texte la première fois où j'ai vu qu'il parlait d'un petit port breton, moi qui ai pas mal voyagé, je me disais, mon Dieu, ce petit port breton, quand il va arriver au Mali, qu'est-ce que ça va devenir ? Et c'est là où on a eu les choses les plus magiques. Pia le disait tout à l'heure, ces oiseaux qui finalement, ces chevaliers qui avaient quatre pattes, qui étaient bariolés, en fait, les enfants traduisent ce qu'ils ne comprennent pas, ils le mettent à leur sauce, et ce qui donne des choses extraordinaires. Donc là, il y a le talent de celui qui démarre l'histoire, et il y a le talent aussi de l'enseignant qui fait passer le message et qui mobilise les enfants et qui s'amuse en même temps de faire autre chose que de faire le programme. Et je crois que c'est là aussi, c'est une bonne préparation pour l'avenir.
Finalement, c'est formateur et pour les enfants et pour les enseignants.
Oui,
ça, bah, disons que plutôt que d'employer le mot de qualificatif de formateur, disons que ça ouvre, hein, ça donne un champ de possibilités différent que les simples programmes scolaires.
C'est important. Mais j'ai un grand souvenir de la remise du prix quand la première année, l'année Senghor, où on était au milieu du salon du livre sur une estrade avec tous les représentants des pays qui étaient, je dirais, leur ambassadeur, donc en poste à Paris, qui étaient venus recevoir le prix pour leur pays. Et puis Éric Orsenna, et puis une jeune femme qui faisait de la musique, et puis donc Agnès aussi qui était là. Enfin, et ça a été un moment où tout d'un coup, tout le salon du livre a quitté les stands et est venu nous voir, est venu nous regarder, poser des questions. Et c'était vraiment là aussi une grande réussite, et merci Colombe.
Un moment magique. Alors, avant de recevoir autour des micros de Canal Académie, Jean-René Bourrel, qui est donc responsable de projet au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, une question pour Colombe. Colombe, on parle de concours. Alors, certes, il faut des cadres, il faut des concours, il faut des personnes qui soient récompensées, d'autres qui ne le soient pas. Comment, au niveau de l'enfant, ça peut être vécu, ça ? Ce sont des enfants, garçons, filles, qui vont mettre tout leur cœur à vous raconter, à vous faire la confidence d'une histoire. Hein, si évidemment, les choses ont bien été transmises par leurs professeurs, etc. Ils vont y mettre toute leur envie d'écrire, d'y participer. Et puis, le couperet va tomber. Ce ne sera pas leur dessin, ce ne sera pas leur texte. Comment est-ce que ça peut être vécu ? Comment est-ce que ça peut être expliqué ?
Nous, notre but, ça on n'a pas encore dit, c'est d'arriver à faire la première bibliothèque francophone qui est créée par des enfants, pour des enfants. Donc on doit arriver à qu'une histoire, on est obligé pour faire un livre. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de gagnants. Ils sont tous gagnants, ils se sont amusés, c'est le principal.
Le sillon et la trace. L'Organisation internationale de la francophonie est très heureuse d'apporter son soutien au concours scolaire francophone Philippe Senghor. Il n'y a pas de hasard dans ce choix. Le concours scolaire francophone Philippe Senghor fait maintenant partie de notre patrimoine et s'inscrit naturellement dans le cadre de l'année Senghor. Il est le sillon que nous creusons pour aider les plus jeunes à ouvrir la porte du savoir. Il est aussi la trace, puisqu'il crée un lien supplémentaire avec celui qui fut le pilier et le chantre de la francophonie, cette communauté de partage d'une langue, le français, et de valeurs communes. Ce texte est signé Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, pour laquelle vous travaillez en tant que responsable de projet. Jean-René Bourrel, bonjour.
Bonjour.
Et donc vous vous inscrivez, je pense, mot pour mot, dans le sillage, le sillon et la trace de votre secrétaire général.
Vous pensez bien. Je m'y situe d'autant plus que l'Organisation internationale de la francophonie, en domiciliant le concours Philippe Senghor, est en parfaite conformité, comme le dit notre secrétaire général, avec la mission fondatrice et fondamentale qui est la sienne. Et cela reprend d'ailleurs, ou je reprendrai plutôt très facilement, ce qui vient d'être dit. Le concours est un concours qui rend effectif le métissage culturel, puisqu'il fait appel à des imaginaires d'enfants qui viennent des quatre coins de la Terre et qui manifestent leurs différences à l'intérieur d'un même récit. Être différent mais ensemble, c'est précisément la mission de la francophonie. Et ce concours en est l'illustration vivante. Et il ne faut pas oublier aussi que les porteurs d'histoire, on a mentionné tout à l'heure Éric Orsenna, mais il a été le premier, il a ouvert la voie, mais derrière lui, il y a eu Fatou Diom, qui est sénégalaise d'origine, il y a eu Michel Rakatoson qui est malgache, il y a eu Daniela Ferrière qui est haïtien, et là on voit à la fois l'équilibre régional et l'équilibre de genre, d'ailleurs il y a autant d'hommes que de femmes, et chaque fois ce sont des amorces d'histoire qui sont représentatives de la diversité francophone, et une fois de plus, une fois encore, c'est un concours qui, alors qu'il n'y paraît peut-être pas quand on le regarde rapidement, mais est une sorte d'émulation du métissage dans l'imaginaire, du métissage des imaginaires, et en même temps, c'est la mobilisation des enseignants et des jeunes pour poursuivre, cela a été très bien dit tout à l'heure, une sorte de fable du monde, un roman inachevé, au meilleur sens du mot, un roman qui n'en finit plus, qui se poursuit et qui, en même temps, s'offre en partage à d'autres enfants. Et comme le rappelait Colombe à Nouilly-d'Harcourt tout à l'heure, des comptes se constituent qui viennent s'ajouter à d'autres comptes et tout cela converge, le mot est singorien, vers justement des bibliothèques d'enfants pour les enfants. Et il y a là un partage de l'imaginaire qui a pour justement vocation finale, et cela a été dit excellemment avant moi, de manifester la créativité dans la langue française. Et aussi, et je crois que c'est un des grands soucis du président Diouf, parce que la francophonie, et il le sait lui le premier, souffre très souvent d'une image compassée et un peu vieillotte. On voit la francophonie à travers les sommets des chefs d'État et de gouvernement, et le souci de nous tous, et de lui en particulier, est justement d'atteindre les jeunes. Pour reprendre une très belle expression, ce sont les acteurs du futur, de notre futur. Un concours comme le concours scolaire Philippe Senghor est un concours qui touche des publics que l'institutionnel francophone n'a pas. Et on a la chance avec ce concours, et on est honoré de l'abriter et on est heureux surtout de l'abriter, de pouvoir avoir une action en profondeur vers des publics et vers des jeunes qu'il faut bien le reconnaître, on n'aurait pas atteint autrement.
En tant que responsable de projet, c'est une certaine Colombe à Nouilly-d'Harcourt qui est venue un jour vous faire la proposition de ce concours.
Oui, c'est une Colombe qui s'est un jour posée en francophonie.
C'est très joli comme image
de la francophonie. Nous sommes rencontrés évidemment à la faveur de l'année Senghor, dont nous avons beaucoup parlé en 2006, année au cours de laquelle l'Organisation internationale de la francophonie a été particulièrement mobilisée. J'ai plaisir à rappeler là que nous avons été ébahis, je crois que le mot n'est pas trop fort, par le succès de cette année Senghor. Il y a eu dans le monde un peu plus de 2500 manifestations autour du souvenir du président Senghor. Et ces manifestations, ces événements, souvent festifs d'ailleurs, commémoratifs et festifs, étaient organisés par des pays non francophones. Ce qui montre bien l'extrême présence, l'extrême actualité du président Senghor. Il a eu, je crois, à souffrir d'un décalage en son temps entre les messages qu'il portait et une opinion publique, à commencer par la sienne, la sénégalaise, qui ne le comprenait pas parce qu'il était sans doute trop en avance sur son temps. Mais en 2006, on a pu mesurer à quel point les messages, et le mot message est un mot senghorien par excellence, les messages qui sont aussi des viatiques, étaient d'actualité. C'est comme ça que nous avons rencontré Colombe. Derrière le président Senghor, si je puis dire, d'évoquer Philippe Maguilène, son fils, nous avons vu là un hommage qui se dédoublait et qu'il était heureux de poursuivre parce que, en effet, Philippe Senghor avait été un petit peu, si vous me passez l'image, mais un prince de la jeunesse sénégalaise. Et je peux témoigner justement qu'avant cet accident du 7 juin 1981, il rassemblait autour de lui une jeunesse sénégalaise qui échappait enfin au clivage politicien et qui se retrouvait derrière l'image d'un homme jeune, d'un homme beau physiquement, et qui était lui-même l'incarnation la plus magnifique et la plus éclatante d'un métissage qui était culturel et qui était biologique. Et je trouve que justement, rendre hommage en 2006 à Philippe Senghor était aussi rester dans le sillon et le sillage, pour reprendre les mots que vous avez employés tout à l'heure, de son père, et qu'on faisait œuvre utile. Et je crois en effet qu'il ne peut pas y avoir pour nous meilleur ambassadeur d'une francophonie d'ouverture et d'excellence que celle qui se place sous la figure tutélaire de Philippe Senghor.
À quel niveau se place l'aide, le soutien apporté par l'OIF à ce concours ?
Alors, il y a un soutien qui est évidemment immédiatement, bassement matériel, bien sûr.
Très utile.
Mais très utile, voilà, sans lequel aujourd'hui on ne peut pas mener une action en profondeur et une action durable. Nous domicilions le concours. Alors, on peut évidemment jouer sur les mots, mais je crois que domicilier dit bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire que le concours garde son équipe, son autonomie, son initiative de gestion et en même temps de développement. Il lui appartiendra d'aller sur les chemins qu'il lui plaira d'ouvrir. Et je crois que c'est le cas cette année, par exemple avec un pays comme l'Ouzbékistan, qui n'est pas spécialement membre de notre organisation. On voit bien qu'il faut laisser au concours la bride sur le cou, qu'il faut qu'il aille de l'avant. Et nous nous réjouissons, bien sûr, de le voir ainsi fonctionner pour la plus grande gloire de la francophonie. Donc c'est un soutien moral, c'est un soutien financier, et une fois encore, c'est un soutien, je dirais, d'une logique évidente, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, parce qu'il est promoteur d'une créativité en langue française de la part de publics scolaires, élèves et enseignants, qui sont pour nous les porteurs, les fourriers, les promoteurs de la vraie francophonie, qui est celle de l'esprit, qui est celle du cœur et surtout qui est celle de demain, bien sûr.
On parlait tout à l'heure du travail de communication avec les ambassades, puisque c'est par leur intermédiaire que le concours peut voir le jour dans certains pays. L'OIF aide à ce niveau-là? Comment est-ce que ça se passe?
L'OIF est une organisation internationale et nous laissons bien sûr à chaque pays le soin, l'initiative et la responsabilité de supporter le concours. Il se trouve évidemment que pour des raisons franco-françaises, puisque le concours a vu le jour à Paris et que Colombe est elle-même française, tout naturellement, et Mme Ferrand le rappelait tout à l'heure, les parlementaires français, le Quai d'Orsay, se sont naturellement et spontanément portés volontaires pour soutenir le concours et faire en sorte que celui-ci s'ancra dans les pays où il venait de voir le jour. Oui, ce sont les services de coopération et d'action culturelle qui répondent au très vilain acronyme de SCAC, qui, dans les pays étrangers, soutiennent le concours. Ce n'est exclusif de personne, évidemment. Et l'OIF se réjouit de ce soutien français, bien évidemment, tout en apportant elle-même une ouverture internationale francophone que le concours n'avait pas au départ. Récemment encore, Colombe Anouilh d'Harcourt a pu s'en faire l'écho auprès d'un certain nombre de pays qui participent à un projet que nous avons de formation continue à distance d'enseignants du primaire au Bénin, au Burundi, à Haïti, à Madagascar. Elle a pu rencontrer les directeurs des enseignements primaires de ces différents pays, leur parler du concours. Et cela, c'est une valeur ajoutée de la francophonie. Cette valeur ajoutée, c'est justement d'ouvrir au concours des espaces, des pays, des partenaires parfois, que la coopération française ou les systèmes culturels n'ont pas toujours.
Pour nous, la francophonie, c'est le partage de la langue française. Le partage implique une réciprocité. Et je ne peux pas vous dire à quel point on se régale à la lecture des histoires qui nous reviennent d'un peu partout, non seulement pour elles-mêmes, mais la langue qui est utilisée. Nous aussi, on prend des notes, il y a des trouvailles extraordinaires, nous apprenons des mots nouveaux. Le français qui nous revient de ces pays est tellement enrichi, nous fait voir les mots que nous utilisons sans plus tellement les regarder, d'une manière tellement nouvelle que pour nous aussi, c'est un très grand enrichissement. Au point que nous avons un petit projet, on va essayer de le mettre au point, c'est de créer un nouveau fascicule, un nouveau livret, des trouvailles, des mots nouveaux qui nous reviennent et pour les partager un peu plus.
C'est ça la francophonie, Jean-René Bourrel, une revivification?
La francophonie, la langue française plutôt, ne peut vivre que des apports fécondants, on retrouve Senghor, hein, de populations qui sont en perpétuelle évolution. Et l'évolution des populations, l'évolution des mentalités se retrouve évidemment dans la créativité lexicale. Et en effet, c'est un florilège inépuisable de mots, d'expressions nouvelles qui montrent de façon évidente que notre langue est une langue éminemment vivante et qui est perpétuellement en jaillissement. Alors les trouvailles et les mots ne sont pas toujours du français normatif standard, peut-être que dans la maison où nous sommes...
Géré par nos académiciens.
Voilà, il faudra attendre un petit peu avant qu'il ne soit agréé, mais je pense que c'est une langue qui est très très vivante et on mesure là l'extrême diversité des Français, car il y en a plusieurs. Et on la mesure avec éblouissement parce que c'est en effet chaque fois des rapprochements qui sont, comme disait Senghor aussi, les courts-circuits de la métaphore où on trouve des raccourcis éminemment poétiques et tout le temps insolites. Et la poésie, elle est là justement, elle est dans la capacité à étonner les vieux lecteurs que nous sommes.
Je pense aussi que le bonheur de ce concours se situe au niveau des enfants, mais aussi à notre niveau, parce qu'on en prend... Pour mon domaine, plein les yeux et avec les mots, on en prend plein les oreilles.
Juste un mot, quand vous parlez des trouvailles et des mots qui nous arrivent, on voit aussi des mots qui ont une véritable résurrection. Dans certains pays, plus particulièrement, disons, à Haïti, enfin dans les îles, il y a du vieux français qui est utilisé couramment. C'est également, je dirais, une façon de faire revivre certains mots que nous-mêmes ici, nous n'employons plus.
Nous avons devant les micros de Canal Académie le jeune Amine Sijilmassi. Amine, bonjour.
Bonjour.
Tu as 14 ans et tu es est-ce qu'on peut dire un ancien du concours Philippe Sangor?
On peut dire ça.
On peut dire ça. Depuis combien d'années?
Depuis sa création, en 2006.
Alors, tu n'es pas parisien, Amine?
Non, je suis marocain.
Raconte-nous, en tant que membre du jury, quelle est ta tâche, quelle est ta mission, quel est ton travail?
En tant que membre du jury, je dois lire tous les manuscrits qu'on m'envoie. La première année du concours, où Eric Arsena a débuté l'histoire, eh bien, le mot magique, en fait, c'est les chevaliers arlequins qui étaient des mouettes. Et les mouettes, c'était en fait le thème principal du début de l'histoire, cette année-là. Les enfants ont fait preuve de beaucoup d'inventivité et d'originalité sur ce thème-là.
Est-ce que tu es conscient quand même de ta responsabilité? Faire une sélection, c'est pas toujours drôle. Il y a toujours ce qu'on oublie sur le bord du chemin.
J'essaye de faire les choses bien.
C'est-à-dire?
Quand je lis, j'essaie de lire sérieusement et de comprendre, même quand c'est parfois mal dit, ce que l'enfant a voulu dire. Parce que les jeunes à qui on demande d'écrire ces histoires ne viennent pas forcément de milieux où on parle très bien français. On va essayer une nouvelle méthode. En fait, le gagnant de cette année, on va essayer de le publier dans un journal au Maroc. On essaye de montrer aux autres ce qu'est le concours. Et ensuite, on proposera dans ce même journal aux jeunes de participer au concours.
Colombe Anouilh d'Harcourt, vous nous présentez Mariam Traoré-Lehouk, qui a des fonctions au sein de l'Organisation internationale de la francophonie.
Oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une chaîne d'amitié. Et j'ai rencontré Mariam à l'occasion d'une remise d'insignes des arts et des lettres pour le meilleur ami de Philippe Sangor, Amidou Sall, qui travaille à l'OIF auprès du secrétaire général, le président Abdoub Diouf. Et lors de cette soirée, j'avais apporté le concours avec moi et j'ai présenté le concours à Mariam qui a adhéré tout de suite et qui a eu plein d'idées.
Qu'est-ce qui vous a plu, Mariam Traoré, dans ce concours?
L'idée d'associer les enfants de la francophonie à différents pays, des enfants à des concours justement. Quand j'ai rencontré Colombe qui me parlait de son concours, connaissant déjà Emmanuel Charles qui avait fait ce totem, parce qu'en 2008, le totem était sur la place de la Madeleine. L'idée m'est venue, j'ai dit à Colombe, il faut absolument aller voir.
Ce totem dont Emmanuel Charles Garnier est justement le créateur. Emmanuel Charles Garnier, vous êtes sculpteur. Parlez-nous de ce totem, de ce que vous avez voulu qu'il représente par rapport à cette convention des droits de l'enfant.
En concertation avec l'abbé Pierre, parce qu'on m'avait appelé moi pour faire une œuvre à ce moment-là, je pensais qu'il était plus utile de faire une œuvre qui ait un sens, une signification humaine, et qui puisse servir et renvoyer ce que l'on disait tout à l'heure du partage et d'autres valeurs que juste une valeur d'œuvre neutre. Donc à partir de ce moment-là, étant en contact avec l'abbé Pierre, on a beaucoup discuté et on a essayé de trouver quelque chose qui pourrait avoir une signification par rapport aux enfants, parce que c'était son souhait, ça. Donc je lui ai présenté plusieurs projets, on en a beaucoup discuté et on est arrivé au totem des droits de l'enfant.
Alors, le totem existe où?
Le totem se déplace. Le totem, c'est une œuvre qui est démontable, que l'on déplace en fait de ville en ville selon les institutions qui nous le demandent.
Si vous aviez à le décrire pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu?
C'est un grand crayon, parce que c'était le symbole, il fallait que ce soit un grand crayon, avec des témoins horizontaux qui représentaient une échelle, la progression des enfants, et droit après droit, ou principe après principe, c'est la progression des enfants et l'élévation d'un enfant vers l'adulte.
Nous voulons, cette année, associer le concours Philippe Sangor au 20e anniversaire des droits de l'enfant. Grâce à Mariam, qui m'a signalé, parce que je ne le savais pas, que le 20 novembre prochain, c'était la commémoration des 20 ans des droits de l'enfant.
Les 20 ans de la ratification de la Convention des droits de l'enfant, le concours scolaire Philippe Sangor, autant de programmes d'énergie positive rassemblés qui intéressent donc l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, une institution au sein de laquelle vous êtes responsable de projet, Jean-René Bourrel, n'est-ce pas?
Je crois que dans la francophonie, qui est très souvent, on le sait, attaché à un côté un peu vieillot, un peu suranné, renforcé par un institutionnel lourd, les sommets, tous les deux ans, les chefs d'État, au demeurant tout à fait indispensables. Mais on oublie un petit peu trop que nous servons des personnes qui sont dans les pays, c'est la population, et dans la population, au cœur de celle-ci, ce sont les enfants. Alors il y a ce communiqué de presse qui est tombé aujourd'hui et qui nous rappelle, si besoin en était, l'intérêt tout particulier du secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, pour les enfants. Mais le combat de la francophonie est ancien. Et il faut ici rappeler qu'en 1993, cela fait déjà un certain nombre d'années, l'Organisation internationale de la francophonie a organisé et établi la conférence des ministres chargée de l'enfance dans les pays francophones. Et qu'à partir de cette institution et de ce réseau institutionnel, se sont mis en place un certain nombre de programmes et de projets. Alors il ne faudrait pas oublier, vous venez de le rappeler, la place de l'éducation et de la formation. Elle constitue l'une des quatre missions fondamentales actuelles qui sont les nôtres à l'intérieur d'un cadre stratégique décennal qui a été fixé en 2004, justement par les sommets francophones. Nous avons pour mission, notamment, de faciliter l'accès du plus grand nombre d'enfants à un cycle complet d'études primaires sans disparité entre les sexes. Je cite là de mémoire. Cet objectif stratégique, il nous oblige au quotidien. Et il nous oblige par des actes qui, malheureusement, sont configurés et qui se conforment aux moyens humains et financiers qui sont les nôtres. On n'a peut-être pas les moyens de nos ambitions, mais il nous faut avoir des ambitions supérieures à nos moyens, si je puis dire. Alors, nous développons l'enseignement primaire, nous supportons et accompagnons les pays dans leur effort de scolarisation, et nous avons le souci également de la prise en compte des genres, ce que nos amis nord-américains appellent l'approche genre, donc le souci de l'intégration des femmes, des filles, dans les cursus scolaires. C'est ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie soutient tout particulièrement les pays qui veulent avoir des contenus éducatifs, ce qu'on appelle dans le jargon des curricula, qui prennent en compte justement les femmes, leur place dans l'histoire, mais aussi leur place dans l'histoire immédiate, leurs besoins, leurs attentes, le fait qu'elles sont différentes et par leur vie et par leur insertion sociale. Cela doit induire une éducation du citoyen et de la citoyenne adaptée, ce qui n'a peut-être pas été toujours le cas. Je crois que ce qui préoccupe aujourd'hui le secrétaire général, et c'est l'objet du combat présent, c'est que la Convention internationale sur les droits de l'enfant, la CIDE, dont on fête le 20e anniversaire, doit aujourd'hui être actualisée par la ratification de deux protocoles qui correspondent à des nécessités de la conjoncture. Il s'agit d'abord de faire en sorte qu'on éradique l'implication d'enfants dans les conflits armés, des enfants soldats que l'on n'a que trop connus récemment, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Voilà les combats dans lesquels s'engage la francophonie. Et on voit bien que la francophonie, ben là, elle n'est pas ringarde. Il faut rappeler justement que c'est sur ces terrains-là sur lesquels nous nous engageons et nous nous battons, que la vraie francophonie est à l'œuvre. Et je crois qu'il ne faudrait pas l'oublier, parce que c'est cela, au fond, la conviction de la francophonie. S'il fallait résumer et conclure, je crois que notre conviction, celle qui est chevillée à notre corps institutionnel, si je puis dire, c'est qu'il n'y a pas de développement durable sans cohésion et sans promotion sociale fondée sur la valorisation du statut de la famille et notamment les droits des enfants. Il ne peut pas y avoir un pays développé, il ne peut pas y avoir un développement de l'esprit au sens fort et religieux et philosophique, tant qu'il y aura des enfants bafoués. L'enfant est au cœur de nos préoccupations et il pourrait même servir de mesure à l'état délabrement d'un pays. Si l'enfance est bafouée, l'état n'existe pas et ne pourra jamais arriver à quoi que ce soit. Donc pour nous, en francophonie aujourd'hui, eh bien on ne veut pas se payer de grands mots. On veut avoir une action concrète. Nous agissons sur le monde réel, sur ce que Rimbaud appelait la réalité rugueuse à étreindre. Elle est parfois très rugueuse, cette réalité-là, mais il faut avoir la lucidité de la regarder en face. Il n'est plus possible d'avoir en francophonie un discours qui soutient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et tolérer que l'enfant soit maltraité comme elle l'est encore dans de trop nombreux pays. Quand le secrétaire général s'arroge ce combat, il fait honneur à la francophonie et à la cause qui est de tous ceux et celles qui veulent que la francophonie soit une réalité vivante dans le monde d'aujourd'hui. L'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme et l'Organisation internationale de la francophonie ont réalisé ensemble un guide de l'enseignant, de l'enseignante pour l'éducation aux droits de l'homme dans l'espace francophone. Ce livre qui est intitulé « L'éducation aux droits de l'homme, comprendre pour agir ensemble » est en fait le vadémécum de l'humanité, si je puis dire. Il est destiné aux enseignants pour que ceux-ci se l'approprient et dans leur classe fasse la pédagogie des droits de l'homme.
Comment se procurer cet ouvrage ?
Alors, se le procurer, je crois que le mieux, c'est de s'adresser à l'OIF, francophonie.org, et nous nous ferons un plaisir d'envoyer à qui le souhaite cet ouvrage qui doit être absolument mis en œuvre dans les classes. C'est pour ça que nous l'avons fait. Quand nous disons, bien sûr, éducation aux droits de l'homme, l'homme est écrit avec une majuscule H, il s'agit du terme générique, homme et femme, cela s'entend. Mais cet ouvrage est justement la preuve même, si besoin en était, que nous entendons travailler dans les classes, travailler avec les maîtres pour la promotion de l'individu et l'épanouissement de l'individu en personne. Et cette promotion et cet épanouissement passent par l'école pour nous.
Je rappelle que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, compte aujourd'hui 56 États et gouvernements membres, ainsi que 14 pays observateurs. Merci à tous d'avoir participé à ce temps d'échange autour des micros de Canal Academy. Merci.
Merci Virginia.
Merci.
Virginia.